Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions. Tel est le triste constat de Georges Dandin dans la première scène de la pièce de Molière qui porte son nom. Paysan devenu riche, il a épousé Angélique de Sautenville, fille d'un gentilhomme ruiné, et obtenu ainsi le titre de Georges de la Dandinière. Mais son mariage est un marché de dupes et fait de lui un mari confondu. Les mésaventures de Dandin prêtent-elles à rire ou à pleurer ? Dans la mise en scène qu'il en proposait en 1970 à la Comédie Française, avec Robert Hirsch dans le rôle-titre et Catherine Yégel dans celui d'Angélique, le regretté Jean-Paul Roussillon soulignait le côté sombre de la pièce. Il en expliquait sa lecture à Jacques Régnier dans une émission intitulée « La Comédie Française 1680-1970 » et diffusée pour la première fois le 9 octobre 1970.
Depuis le 28 septembre, la Comédie Française présente son premier spectacle de la saison 1970-1971. Ce spectacle est composé de « Il ne faut jurer de rien » d'Alfred de Musset, mis en scène par Michel Duchossois, et de Georges Dandin, de Molière bien entendu, mis en scène par Jean-Paul Roussillon. Jean-Paul Roussillon est là avec nous et je suis très heureux de pouvoir lui poser quelques questions.
Avec plaisir.
Jean-Paul, lorsque vous avez relu Dandin avec l'intention de le monter, qu'est-ce qui vous est apparu d'abord ? Enfin, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire ? D'ailleurs, j'imagine que vous avez dû le lire plusieurs fois.
Oui, bien sûr, parce qu'on m'a demandé si je voulais bien le mettre en scène, Monsieur Dux, ce qui m'a fait déjà énormément plaisir, ainsi que Monsieur Hirsch, qui avait accepté de jouer Georges Dandin. Ils ont tous les deux décidé d'un metteur en scène, ils m'ont choisi, c'était un grand honneur. Mais devant quand même ce grand honneur, j'ai demandé 48 heures, parce que c'est merveilleux d'être demandé, c'est merveilleux d'avoir M. Hirsch dans sa distribution, mais encore faut-il pouvoir trouver quelque chose à dire dans la pièce. Quelque chose à dire, de simple, bien entendu, mais enfin trouver un intérêt à la monter. Et voilà, alors j'ai lu en effet 4-5 fois la pièce, et 48 heures après, j'ai donné une réponse, oui. Ça m'a intéressé, bien sûr, parce que je crois que c'est une grande pièce et que c'est intéressant, tout simplement.
C'est intéressant, mais justement, alors maintenant, qu'est-ce que vous avez ressenti vous-même ? Parce que la pièce s'est quand même jouée dans des styles tout à fait différents, même à travers les siècles. On a souvent discuté de la gravité du personnage de Dandin, de son comique. Les acteurs l'ont plus ou moins tourné vers leur propre tempérament. Comment l'avez-vous conçu ? Je ne parle pas de...
Bien entendu, je n'ai pas conçu ça. Quand on lit Georges Dandin, maintenant, à notre époque, il est très difficile de l'imaginer avec une perruque qui tourne et un nez rouge. De toute façon, il y a très longtemps, ne serait-ce que très longtemps, pas tout à fait, mais enfin, ne serait-ce qu'avec M. Ledoux, lorsqu'il a joué à la Comédie Française, avait déjà donné un ton tout à fait dramatique, qui, je crois, même avait fait assez de bruit à ce moment-là. Mais enfin, c'était... Peut-être il y a eu d'autres personnes avant, mais enfin, c'était un point de départ.
Il y a eu Go, au siècle dernier,
aussi,
qui avait...
Une chose, paraît-il, tout à fait dramatique. Ensuite, il y a quand même eu... il y en a eu d'autres. Il y a eu celui monté à la Comédie Française par M. Chamara, qui était dans une vision plus comique, mais où tout de même le dramatique ressortait énormément. Il y a eu la mise en scène très importante et très intéressante de M. Planchon. Je crois qu'il est admis maintenant pour tout le monde qu'il est difficile à notre époque de prendre ça vraiment comme la grosse farce. Et je crois même que les critiques de l'époque, sur le moment, n'ont pas tous pris ça comme ça non plus. Alors voilà, ça sent...
Il y a effectivement dans le personnage, et ce personnage au milieu des autres personnages qui l'entourent, une sorte d'ambiguïté.
Ah oui.
Dandin, c'était effectivement, il est un peu une espèce de grosse baudruche qui va se heurter contre tous ces...
Oui, c'est assez terrible, comprenez-vous, parce qu'il commence déjà avec un premier monologue où il dit « j'ai fait une sottise ». Donc, on peut dire toujours que faut avouer, à moitié pardonner. À partir de ce moment-là, on le plaint, il dit qu'il a fait une bêtise. Il s'accuse de l'avoir fait et il en est malheureux. Alors, il est très difficile après de pouvoir rendre la chose comique. Tout au moins, à mon avis. Ensuite, bien sûr, il emploie des moyens pour se justifier aux yeux du monde qui ne sont pas tout à fait... qui sont un peu grossiers. Donc, il est en même temps un peu antipathique. Mais... C'est très long, quoi. C'est tout un problème, quand même. Bien sûr, cet homme-là, il a fait une faute d'ambition, mais qu'il a fait pas. Il rêvait d'avoir... de s'appeler de la dandinière. Mais enfin... moi aussi, j'ai des rêves, mais ils ne se réalisent pas toujours, et je pourrais les avoir tout le temps. Il y a des gens qui représentent tout de même une société, qui sont les Sotteville, qui ont quand même vendu leur fille pour ça. Si l'on peut imaginer, ce sont presque les Sotteville, les grands responsables de l'aventure.
Alors vous dites une chose très intéressante, c'est qu'il se rend compte de la faute qu'il a faite.
Son premier monologue.
Ce que ne fait pas, effectivement, Jourdain, par exemple, qui lui ne s'en rend pas compte du tout. Jusqu'à la fin, il est aveuglé par sa passion de la
noblesse. Oui, j'ai dit peut-être une bêtise là, mais en gros, en image, c'est peut-être, ça pourrait être, si vous voulez, la suite de Monsieur Jourdain. Après tous ces déboires, il pourrait, si on imaginait un autre acte, oui, peut-être avoir un monologue comme celui-là. Mais là, ça commence comme ça, alors...
Donc ça situe tout de suite l'action, quand même, dans un climat dramatique.
Oui, oui, dramatique, l'exagérons pas, mais enfin, dans un climat tout de même assez lourd. Un homme d'un certain âge qui a fait une bêtise et qui se confesse de sa bêtise, c'est toujours un peu touchant, sinon dramatique, mais de toute façon touchant.
Du point de vue, alors, non plus du caractère, mais de l'action dramatique même, l'action se passe dans une seule journée. Le soleil se...
Parce que je crois que la qualité de Georges Dandin de pièce, tout a ses défauts, mais enfin, les énormes qualités, c'est justement d'une pièce d'une heure et quart, qui est très... C'est un extrait de pièce, en fait. Ça fait pas... forcément un spectacle complet, c'est un extrait, et je crois que dans la mise en place, on a intérêt à garder justement cet extrait-là. C'est pourquoi j'ai essayé de le faire, j'ai fait dans toute une journée.
Nous allons parler des autres personnages maintenant, oui. si vous le voulez bien, et de toute façon, en parlant des autres personnages, nous continuerons à parler de Dandin. Il y a, vous venez de parler des Sotteville, alors là, il y a un monde... Dans votre mise en scène, je l'ai vu, les Sotteville, pour moi, représentent véritablement toute une société. Oui. Je les avais vus jouer très souvent d'une manière un petit peu caricaturale. On ne peut pas dire qu'ils ne le soient pas là, mais ils sont à la fois très inquiétants.
Ils sont très inquiétants, oui. Enfin, c'est ce qu'on a voulu, oui. Inquiétants et en même temps ridicules, mais ridicules... je veux pas faire de politique, mais comme une société un petit peu en décadence et qui est obligée de se maintenir à des principes. Pour l'un, c'est la pruderie, l'autre, c'est l'honneur, et il faut absolument se tenir à ces principes, sinon tout s'écroule. Et comme tout s'écroulera bientôt, j'entends pour cette société-là, oui, puisque plus tard, c'est passé. C'est comme une... Si on donnait un exemple, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup comme ça, mais enfin, il doit en rester avec des parents qui continuent, même actuellement, avec les enfants, à élever dans des principes. Alors, les principes, ce ne sont pas tous mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, il faut se maintenir. Ils essayent de garder une autorité en disant, moi, je suis le père, moi, je suis la mère. C'est ce que dit Dandin, d'ailleurs, tout le temps. Le mariage est une chaîne à laquelle on doit toutes sortes de respect, il est buté, c'est un peu vrai d'ailleurs, mais enfin, les mots chaîne, les mots tout ça, sont un petit peu des choses, par exemple, qu'on comprend plus tellement maintenant, il faut mieux s'y prendre par d'autres moyens.
Alors, c'est ces parents qui tiennent tant à leur principe, comment en arrive-t-il alors à vendre leur fille à un paysan?
Ben, je crois que c'était un petit peu
là, ils ont failli à leur principe.
Toute la société un petit peu, mais non, je crois que ça fait partie des principes, puisque les enfants, à ce moment-là, les parents avaient toute autorité. D'ailleurs, Angélique le dit après, elle dit, je vous demande de me séparer d'un mari, je peux plus vivre. Et monsieur de Sotteville répond, non, c'est impossible. Et la fille répond après, oui, vous avez sur moi une puissance absolue. Et c'est vrai, ça n'était rien. Dandin achetait et eux vendent.
Nous avons parlé de l'ambiguïté du personnage de Dandin. Et il y a un autre personnage qui est peut-être un peu ambigu, c'est celui d'Angélique. Quel est
ça? C'est un personnage formidable.
C'est-à-dire, Angélique.
Ben Angélique, pour moi, ou c'est pour moi, je ne cherche pas à faire du neuf, mais quand j'ai lu ça, il y a une ambiguïté, bien entendu, que je tiens à, personnellement à garder, mais moi, lisant ça, je ne vois pas, vous savez, la fille vicieuse, je ne vois pas ça du tout, je ne l'ai pas vue en le lisant. Alors, comme on me donne cette responsabilité, je ne veux pas faire voir ce que je ne vois pas. Alors, j'ai pris Angélique, si vous voulez, comme une jeune fille normale, avec ses rêves, avec ses aspirations, avec tout, rêvant d'un prince charmant peut-être, rêvant d'être enlevée, comme toutes les jeunes filles, de se marier, d'avoir des enfants, une jeune fille normale.
Et comme puis, beaucoup d'ailleurs des personnages de Molière, enfin.
Oui,
parce que
comme
les jeunes filles sont comme ça.
Je ne sais pas, peut-être l'école des maris, ce qui se passe avec la jeune première, et à cause de certaines circonstances, et puis enfin, je pense qu'après, tout d'un coup, de se voir vendu comme ça à un homme, ça peut un peu traumatiser un peu les personnes. Et en plus de se trouver, et dont les rapports d'elle avec son mari peuvent être un petit peu tout de même troublés au départ. Mais je veux dire, je ne l'ai pas pris comme une vicieuse, comme une petite jeune fille qui, dès l'âge de 3 ans ou 4 ans, on dit, ah ben celle-là, elle va en faire voir plus tard aux autres. Pris comme une jeune fille normale, et petit à petit poussée, justement, par cette situation, par, si vous voulez, cette société, qui permet des mariages comme ça et tout, des situations qui petit à petit se dégradent. Elle dit dans le texte, ça est bien horrible d'être accusée par un mari lorsqu'on ne fait rien qui ne soit à faire, et si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui, parce que, bien sûr, d'après ce que dit Lubin, ce niais aussi personnage un peu trouble, on peut guère se fier complètement et totalement, vu qu'il est niais, bête, à la commission qu'il va faire, ni même à la réponse qu'il donne à Dandin. Et même la réponse qu'il donne à Dandin sur ce qu'Angélique a dit, Angélique a dit « mon mari qui est fantasque ». Je veux dire, elle n'a même pas employé des mots de cocu ou des mots crus ou des mots méchants ou désagréables. C'est presque même une chose de pudeur et de gentillesse. Alors on peut imaginer aussi très facilement qu'elle a accepté ce monsieur-là pour avoir un rendez-vous, mais il vaut mieux pas que le mari voit. Et ensuite, elle a une grande scène où elle dit « je veux vivre, je veux tout ça, je veux... » Et je vous dis, ne fais rien faire qui soit à faire. Et c'est parti, si vous voulez, là-dessus. Mais étant accusé devant tout le monde, on rentre dans le mot bien à la mode de l'escalade, et petit à petit, par défi sur elle-même, sur les autres, elle se dégrade aussi, c'est une sorte de dégradation. Vous savez, on change beaucoup quand on a 8 ans et quand on finit par en avoir 50.
Sûrement, mais il est possible aussi que d'ailleurs que la jalousie de Dandin soit exagérée aussi.
Mais moi, vous savez, j'essaye toujours de faire la vie avant et la vie après. Et si vous voulez, j'imagine, mais je ne cherche pas à ce que les gens... Je ne fais pas des sous-titres, je ne cherche pas à l'expliquer, mais j'imagine que la jeune fille ayant fait ça, ayant accepté ce mariage, puisqu'elle ne pouvait pas faire autre chose, a été tout à fait traumatisée. Ils ne parlent jamais d'amour, ni les uns ni les autres. Et on peut presque imaginer qu'ils n'ont eu, si vous voulez, aucun rapport, même sexuel, qu'elle ait accepté cette chose-là, et qu'ils vivent ensemble et séparément. Je veux dire, dans la mise en place, on le voit pas dormir dans sa grange, Dandin, mais c'est le matin, il sommeillote sur le bord de son échelle. On peut imaginer, puisqu'il dit « ma maison m'est effroyable, maintenant j'y rentre plus sans y trouver des chagrins », que de temps en temps, il couche bien plus souvent dans la grange, où il se laisse, où il s'assoupit dans sa grange. Et je veux dire, au dernier acte, au troisième acte, il y a la grande scène du balcon où Angélique dit à Dandin, écoutez, je vous promets que maintenant, je vous témoignerai de l'amitié, moi je pense à tout à fait sincère, de sa part, ce qui peut faire imaginer, justement, qu'avant, il n'y en avait pas. D'amitié, j'entends un peu plus de rapport sexuel, si vous voulez. Ce qui crée, si vous voulez, la possibilité que Dandin ait vis-à-vis d'Angélique déjà une tension que nous ne voyons pas, et au lieu de parler avec elle sur une chose comme ça, essaye tout de suite d'avoir des témoins, les parents, sachant qu'ils ne peuvent
pas s'entretenir.
Au
fond, toute l'action dramatique, c'est ça. Dandin veut prouver qu'il est trompé.
Il veut prouver au monde, ce qui est assez grossier.
Oui, c'est ça.
Et ce que j'aimerais bien que l'on souhaite, c'est de voir ces deux personnages qui, au fond, sont malheureux, et de pouvoir se dire, mais s'ils se parlaient au moins, s'ils essayaient de s'expliquer calmement, tout ne s'arrangerait sûrement pas, mais il y aurait une autre compréhension et une autre façon.
C'est ça, et l'intérêt dramatique, au sens du théâtre, c'est cela, c'est qu'il ne peut pas jamais prouver, même il le dit, il la trouverait dans le lit de Clitante, finalement, il aurait encore tort.
Ah oui. Mais je crois que pour Angélique, Clitante n'ira jamais dans son lit et que... À la fin de la pièce, bien entendu, Georges Dandin va à l'eau, mais je crois que la petite est bien détruite aussi, et pourquoi elle n'irait pas à l'eau aussi? Je crois qu'il y a deux personnages, et je crois que, à mon avis, que Angélique est aussi important que Georges Dandin, et qu'on doit avoir deux personnages très malheureux à cause d'une chose qui domine, c'est des Sottenvilles qui représentent une société qui permettait des mésalliances comme ça.
Ce sont des victimes.
Et deux victimes, peut-être, de toute une société.
Vous venez de parler de Clitande, mais alors c'est lui aussi un des ressorts importants de la pièce, puisqu'il est celui qui est supposé être l'amant d'Angélique.
Oui, bien sûr.
Vous l'avez traité d'une façon très intéressante aussi. C'est un personnage, lui aussi, on ne sait pas très bien ce...
C'est-à-dire, nous parlons, bien sûr, les auditeurs ne peuvent pas... peuvent pas savoir, puisqu'ils n'ont pas vu encore. Je vous le dis à vous, parce que nous avons changé un petit peu le maquillage du jeune premier. Nous l'avons fait un peu pâle, vous savez, comme les Sottenvilles, pour éviter que les Sottenvilles paraissent, si vous voulez, un petit numéro et englober un petit peu tout ce même monde, toute cette société aussi... Moi, je dis un peu décadente, mais enfin...
La société, bien sûr.
Oui, de ce moment-là. De ce moment-là, oui, très. Alors, comme ça, on sent mieux cette chose. Et puis, je crois que pour Clitande, c'est quoi? Je pense c'est amusant pour lui, ça n'a pas d'importance, c'est rigolo. Je pense que, personnellement, il n'a strictement aucun amour. D'ailleurs, les mots ne sont pas employés. Personne n'emploie d'amour. Il n'y a qu'un personnage qui parle d'amour. C'est Lubin qui dit à Claudine, je t'aime. Et encore, on ne sait pas si c'est pour son corps, ou pour son esprit, ou pour son argent qu'elle aura. On ne sait pas ça. De toute façon, ce n'est pas un amour qui est très, très profond.
Mais je l'ai trouvé un peu agressif, ce personnage de Clitandre. Il a une sorte de force en lui. Il arrive, il est...
Oui, parce qu'il y a toute une échelle aussi sociale. Parce que Clitandre, on peut imaginer que c'est quand même un homme de la campagne. On dit c'est le seigneur du pays. Je veux dire, ce ne sont pas les Sottenvilles, les seigneurs du pays. C'est le seigneur du pays, c'est les vicomtes. Les Sottenvilles sont la classe en dessous. Je veux dire, les Sottenvilles sont des Pourceaugnac, des gens qui, allant à Paris, se font moquer d'eux, enfin, ne peuvent pas aller. On peut imaginer que Clitande, lui, déjà un peu plus riche, va à Paris, mais toujours comme un type de province. Alors, il se fait pas moquer, mais il n'est pas quand même de la même classe. Mais vis-à-vis de la campagne, il y a tout un échelon, quand même.
Oui, il y a une hiérarchie, même.
Ah, une hiérarchie terrible. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que les Sottenvilles peuvent dire des choses comme ça à Dandin, mais ils deviennent les Dandins du vicomte.
Oui.
Enfin, il est certain que les Sottenvilles, et ainsi que Dandin, où tout le monde ne peut strictement rien faire, devant la force, le seigneur du pays, qui lui pouvait tout faire avec eux, la bastonnade,
l'emprisonnement,
ou coup d'épée...
Alors, il y a d'autres personnages dans cette pièce, alors justement, qui représentent dans la hiérarchie encore plus basse, derrière Dandin, les valets. Les valets Lubin, Colin, et un personnage très intéressant qui est celui de Claudine.
Oui. C'est-à-dire qu'on a fait cette hiérarchie, on l'a un petit peu augmentée. C'est-à-dire, je parle toujours, bien sûr, à vous, mais... Vous voyez, les paysans sont pieds nus, sont vraiment... Un homme comme Lubin, qui vient de recevoir 3 pièces d'or de Monsieur le Vicomte pour faire cette commission, il dit, je ne gagne que 10 sous. Alors attention, c'est pas, nous n'avons pas essayé de monter la pièce dans le sens de du film, je sais pas si vous vous souvenez, Farbik, ou vraiment la vie à la ferme avec des poules, pas du tout. On l'a mis sur une autre hauteur et j'espère théâtrale. Mais vraiment, nous sommes des penaillés, pieds nus, et même Catherine Samy qui joue la soubrette, enfin... Et elle aussi, je crois, les costumes sont assez jolis.
Ce qui me surprend un peu, et que je trouve d'ailleurs très intéressant, ce sont les rapports entre ses valets et le personnage de Dandin. Au fond, tout le monde est contre lui. C'est en ça que le personnage est très touchant, enfin, et très
émouvant. Oui, parce que je suppose, on suppose, si on imagine qu'à un moment, quand il était ambitieux, il s'habillait bien et il devait lui-même, comme l'on dit, snober un petit peu tous les gens de la campagne et tous les gens de la ferme qui, à ce moment-là, lui ont tourné le dos, ce qui lui était complètement égal puisque lui, il voulait un autre poste. Et il s'est avéré que quand il s'est appelé Monsieur de la Dandinière, les gens nobles ou soi-disant tels lui tournaient le dos aussi. Et donc, il a perdu et la noblesse et il a perdu absolument tous ses amis, même paysans. C'est vraiment la solitude la plus complète.
On peut penser que Claudine aurait une certaine tendresse quand même pour ce personnage de Dandin, et pas du tout. Elle prend le parti de sa maîtresse et elle attise encore. Et elle est,
je crois qu'elle essaye un petit peu la destruction un petit peu de tout ça. Je crois que c'est un très grand personnage dans la pièce, et un personnage très très important et qui précipite justement... qui précipite la pièce, enfin tout au moins l'action de la pièce. Il n'y aurait pas Claudine, ça arriverait peut-être au même résultat, mais peut-être dans une pièce de 2h30. Le personnage de Claudine met toujours, de l'huile sur le feu dans des moments où il faut prendre des décisions, les autres personnages doivent prendre des décisions. Et
le vôtre que vous jouez, Jean-Paul, ce personnage de Lubin qui avant paraissait un peu un petit valet de comédie.
C'est un petit valet toujours de comédie, mais je pense qu'il y a... Vous savez, quand on prend un peu la pièce comme ça, je ne veux pas dire une gêne chez Molière, parce que c'est un personnage assez extraordinaire et merveilleux, mais il est assez délicat parce que ça n'est pas un clown, bien entendu, mais enfin, il est vraiment là pour faire valoir et pour faire avancer aussi l'action. Et il faut essayer de le mélanger, de ne premièrement pas se mettre en premier plan, mais deuxièmement d'être dans la même ambiance que tout le monde. On aurait, à mon sens, une grande facilité à le faire un peu en clown et à faire tout ça. Oui. Je pense que c'est l'écueil à éviter.
Qu'il reste quand même vrai.
Oui, oui, qu'il reste vrai, un personnage.
Ça n'empêche pas d'ailleurs d'être drôle, parce que ça
Oh, je crois, oui, oui. Vous savez, les situations sont tellement drôles pour lui, enfin pour les spectateurs.
Il y a un autre personnage qui apparaît dans votre mise en scène qui prend une importance très grande, bien qu'il ne dise presque rien, c'est celui de Colin.
Oui, j'aime bien parce que c'est très important, on le voit très peu d'ailleurs, mais enfin, c'est très important parce que, pour un double sens, premièrement parce que c'est si vous voulez, un témoin, c'est un témoin de tout, même si il n'a pas l'air découpé. Oui, c'est la vie qui continue pour un homme simple, vous savez, c'est une chose qui n'a pas de problème, qui n'a rien. Et c'est un double sens aussi, à mon sens, ça fait un peu la boucle, on imagine que Dandin, lorsque la pièce est finie et qu'il s'en va, a vraiment, pour moi, vieilli de... Vous savez, il a pris vraiment un sérieux coup. Il va dans l'eau, peut-être. Peut-être il s'en va sur les routes. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Peut-être, et peut-être, ce que je pense, moi, il va peut-être devenir un Colin, lui aussi, après. Et un homme comme ça, gentil, rien, sans histoire...
Bien, nous avons parlé des personnages. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de votre travail de mise en scène, car c'est cela la mise en scène, c'est d'abord créer les personnages, mais de mise en place pour arriver à rendre à la fois cette atmosphère que vous avez voulu dans cette pièce.
C'est-à-dire, il y a une chose qui est toujours très très importante, c'est le lieu scénique, bien entendu, et le décor.
Oui, c'est ça. Où ça se passe, ce Dandin?
Eh bien, Dandin, ça se passe, je veux dire, d'une façon relativement traditionnelle, quoi. Enfin, je veux dire, très classique. Il y a l'obligation de la maison et du balcon. Et seulement, nous avons, Monsieur le Marquet, ainsi que moi, d'ailleurs, ensemble, nous avons imaginé que Georges Dandin avait construit une maison ravissante, toute neuve, très belle pour l'arrivée de sa femme, mais l'avait construit au milieu de son lieu de travail, c'est-à-dire au milieu de ses hangars, au milieu de ses granges. Donc on trouve une maison, si vous voulez, qui est encastrée dans des toits de grange et au milieu de grange, sur le lieu de travail en fait de Dandin, que l'on ne prend pas comme un paysan qui va labourer, ou on l'a pris comme un homme qui gérait très bien ses affaires, et je pense par la présence de sacs de blé, on imagine vaguement, mais ça n'a pas d'importance, mais enfin que c'est un homme, si vous voulez.
Mais ça n'est pas un décor foncièrement réaliste,
ah non,
mais
non,
c'est
pas
quand
du
même...
Tout.
Un décor qui situe l'action.
Oh, je crois, oui, c'est une synthèse. C'est une synthèse un petit peu de...
Il y a aussi les déplacements de personnages. On les voit moins bouger que dans d'autres mises en scène. Tout au moins, ils bougent en suivant certaines lignes. On les voit apparaître. Ça m'a fait penser un peu à certains films où on voit des personnages comme ça qui apparaissent, qui restent là un long moment, qui écoutent. On ne sait pas très bien ce qu'ils pensent.
Oui, oui.
Il y a la lumière qui joue beaucoup aussi.
Ben c'est important, c'est terrible, c'est très agréable, mais c'est des pièces assez terribles parce que, bon, bien sûr, on aurait pu commencer à midi, si vous voulez, mais il y a dans le texte la nuit noire, il y a le jour qui va paraître, alors bien entendu, c'est toujours du théâtre, mais enfin, on est quand même obligé de faire tout un cycle en une heure et un quart et il faut passer partout, alors ça joue un rôle. Bien entendu, l'ambiance est très importante et doit être assez tendue quand même, assez électrique.
Le décor est très beau, j'entends, même de son architecture.
Je vous coupe.
Mais vous n'avez pas voulu faire un joli décor.
Ah non, c'est-à-dire, moi je suis ravi du travail de Monsieur Le Marquet, mais Monsieur Le Marquet, comme un homme intelligent, je veux dire, avant de faire un décor, m'a fait passer aussi une audition en me disant, moi j'aime énormément travailler, mais encore faut-il que je travaille avec quelqu'un qui peut me donner... qui m'explique son travail pour savoir si je le sens. Alors, nous avions un rendez-vous d'une demi-heure, nous avons passé 2h30 ou 3h ou 4h, je ne sais plus, et un décor s'est presque fait. Dès le lendemain, il était terminé. Je veux dire que, pour moi, c'est une chose rare, j'espère que le résultat soit bien, j'espère que pour lui, c'est la même chose, mais il y a une chose, pour moi, une communion complète et totale, ce qui est très important et qui, je crois, doit sentir.
Bien, bien, c'est donc Le Marquet qui a fait le décor. Dites-nous maintenant.
Bien, dans la distribution, oui, si vous voulez. Il y a M. Hirsch, Michel Aumont, M. Etcheverry, M. Pallon, Mademoiselle Jans, Catherine Samy et Catherine Yegel.
C'était la Comédie française 1680-1970. Jean-Paul Roussillon expliquait sa mise en scène de Georges Dandin à Jacques Régnier dans une émission diffusée pour la première fois le 9 octobre 1970. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.